Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour l'émission du mois de juin, on va faire une petite balade dans la forêt. On voulait vous faire une petite attention de... Ça va parler d'érotisme ou de sexe, donc si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ça, ou s'il y a des oreilles sensibles, vous pouvez les éloigner. Et moi, je voulais dédicacer cette émission à deux petits chats qui sont à la fin de leur vie sur la Terre. Ils s'appellent Cerise et Patouche. Alors voilà. Donc, les fougères. Un nom générique qui évoque souvent des dentelles végétales généreuses. En tant que noctule, on essaye de pas être trop des humanoïdes nombrilistes. En plus, on habite dans un endroit où habitent aussi beaucoup d'autres êtres vivants. D'ailleurs, les humanoïdes cyborgs que nous sommes appellent ce genre d'endroit un endroit riche en biodiversité. Donc on fait des petites balades en forêt et on admire cette dentelle végétale généreuse. Et oui, c'est parti pour de la poésie sensuelle. Pour approcher les fougères, on se met dans des états d'attention particuliers. Ces êtres élégantes sont multiples. C'est qu'elles ont cohabité avec les dinosaures. Elles étaient même là avant eux. Leurs histoires et donc leur diversité sont riches et foisonnantes. 400 millions d'années d'évolution, quoi. Dans nos contrées, on ne croise qu'une petite partie d'entre elles car la plupart vivent dans des régions tropicales. Et parce que, peut-être, c'est le printemps. Peut-être que s'intéresser aux plantes, ça permet de nourrir et décaler nos imaginaires érotiques. On sautille sur les pierres entre différents langages. Phylogénétique, poétesse, malice littéraire, botaniste féministe et érotisme végétal.
Et pour commencer, on avait envie de plonger directement dans le sujet avec une lecture. Et cette lecture, elle va être sur un fond musical de musique électronique à la peau d'insecte. Un groove froid et étrange qui scintille entre les oreilles. Des formes prennent vie dans l'espace. Ambiante abstraite de salle carrelée. C'est un morceau qui s'appelle Xo Xo et qui vient d'un label de musique qui s'appelle Fougère Musique sur le plateau des Mille Vaches.
On pourrait ajouter que les textes que tu vas lire sont presque du Anaïs Nin.
Oui. Du Anaïs Nin revisité peut-être.
Voilà.
De son portefeuille, elle sortit quelque chose qui ressemblait à un fin mouchoir. Elle l'ouvrit. Dessus, on avait peint un derrière de femme, dans une position qui permettait de voir parfaitement le sexe, et à côté, une fougère de même proportion. Elle tira sur le mouchoir, qui était élastique, et on avait alors l'impression que le derrière remuait ainsi que la fougère. Puis elle retourna le mouchoir. La fougère continuait à se soulever, mais cette fois, elle semblait caresser le sexe. Elle donna vie à cette image par un mouvement régulier de ses mains. Je ris, mais cette vue m'excita et nous ne sommes jamais allés au café Wepler. La fille m'emmena chez elle.
Les Ophioglossaceae, seuls représentants de l'ordre des Ophioglossales, sont une famille de fougères dont le nom signifie littéralement « langue de serpent ». Les Marathiaceae, seuls représentants de l'ordre des Marathiales et de la sous-classe des Marathidae, sont une famille de fougères qui regroupe des espèces tropicales uniquement. Cet ordre de fougères précoces est une des plus anciennes lignées existantes. Alors, je vais vous faire une petite explication de la phylogenèse. Parce que, en fait, la phylogenèse, c'est ce qui permet de reconstituer l'évolution des organismes vivants. Alors, petit big up à Yuri, n'est-ce pas ? Qui nous a complètement initiés à la phylogénétique, finalement. Et en fait, en phylogenèse, on représente couramment les parentés par un arbre phylogénétique. C'est la même idée que les arbres généalogiques, quoi. Donc, même si c'est des mots compliqués, j'avais envie de les dire parce que... c'est que, en fait, moi, m'intéresser à ces histoires, celles des montagnes, des rivières ou des oiseaux, des insectes, des plantes, etc., c'est, je trouve que c'est une source inépuisable d'apprentissage et d'émerveillement. Et que ça fait comme quand on prend une loupe, vous voyez, on se rend compte de tout ce qu'on ignore et qui pourtant existe juste là et dont l'existence est tout entremêlée à la nôtre. Et ça donne du sens à ma vie d'observer et de me dire... Mais waouh, quelle merveille et quelle intelligence et quel mystère. Et ça nourrit aussi des états d'attention particuliers. Et une certaine sensualité, je trouve. En vrai. Donc, l'arbre phylogénétique de celle qu'on appelle des fougères, c'est une tentative qui est encore en discussion par un groupe international informel de botanistes. Donc, c'est un truc qui est sorti en 2016. Et au bout de l'arbre, il y a 9 branches. Pour l'instant, et donc ces 9 branches, elles sont réparties dans 3 branches différentes. Donc si on remonte, il y a 3 branches différentes, et si on remonte encore, il y en a une. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire un petit jeu, de cliquer sur ces 9 branches, et j'ai sélectionné les bouts de leur présentation sur Wikipédia. Donc moi, dans la vie, j'arrive pas à retenir le nom des choses, et pourtant, je remarque que c'est en nommant les choses qu'on se rend compte de leur singularité et aussi de leur lien. Alors cette émission sera entrecoupée de ces petites listes de noms que j'ai lues tout à l'heure, qui vous évoqueront sûrement rien. Mais je vous propose un truc, c'est d'essayer d'imaginer que derrière chaque nom de famille que je vais dire, il y a encore d'autres noms. Et que derrière ces autres noms non dits, il y a des genres, et derrière ces centaines de genres, il y a des milliers d'espèces. Et derrière ces milliers d'espèces, il y a des êtres vivants. Et chacun de ces êtres vivants a une histoire différente, un environnement différent, des formes différentes, des couleurs différentes, une taille différente, un emplacement différent, etc. Donc comme toutes les classifications, les êtres vivants collent pas trop bien avec les tableaux, les cases et tout ça, mais le chemin qu'on est amené à faire quand on cherche à identifier telle ou telle espèce, ça apprend à observer des trucs qu'on n'aurait pas remarqué si on s'était pas posé la question. Et je crois que ça peut s'appliquer à beaucoup de situations, quand on cherche les bonnes questions à se poser, qu'on observe, qu'on ressent, qu'on rassemble les faits et les ressentis, les questions que ça ouvre, les hypothèses qu'on fait pour avancer, les allers-retours qu'on doit faire pour se remettre en question, revérifier, changer d'avis. C'est apprendre à apprendre.
Ah oui. Alors, moi, au début, quand on a parlé de l'érotisme des fougères, je m'imaginais déjà trouver un chat sur Internet, une plateforme, et échanger à bâton rompu. Je me suis d'ailleurs interrogée sur cette expression. Qu'est-ce que ça voulait dire, bâton rompu? Avec une personne qui aurait un kink pour les plantes. Bon,
kink.
En fait, ouais, non, alors oui, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai, j'ai dit kink. Un kink, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un kink, c'est des préférences, des fantasmes, des comportements, des pratiques sexuelles qui sortent des normes de la sexualité traditionnelle, en creux ou en bosse. C'est donc une invitation à une sexualité joyeuse et créative. Et ça, on aime bien.
Oui.
Mais je vais vous faire un petit peu d'histoire avant de venir retourner dans le vif du sujet. Sur le kink. D'après les chercheurs, le kink dérive, vous allez voir, c'est drôle, dérive, vous allez voir pourquoi, parce que ça dérive du mot nautique néerlandais qui désigne le fait d'enrouler une corde au XVIIe siècle. La corde, les bateaux, la mer, tout ça.
Le mot kink, c'est le mot kink, ça veut dire ça?
Oui, voilà, enrouler une corde.
Enrouler une corde.
Voilà.
Ça fait penser au shibari, moi, si tu dis corde.
Voilà,
mais bon.
Que c'est un kink,
c'est
finalement.
C'est un kink, finalement.
Et c'est aussi un mot d'argot américain pour désigner les pervers, donc plutôt une insulte qu'un compliment. Mais revenons un petit peu à avant cet argot américain. Un psychiatre austro-hongrois du XXe siècle, Richard von Krafft-Ebing, a écrit le premier livre sur les déviances sexuelles, et c'est donc la première personne à s'intéresser aux pratiques sexuelles d'un point de vue médical, au kink finalement. On dit que c'est le premier, mais toi-même, tu sais que c'est vraiment surprenant tout ce qui disparaît comme recherche et qu'on découvre bien plus tard parce que les auteurs n'avaient pas de reconnaissance sociale au moment de la publication de leur recherche. Bref, la Bible de ce monsieur von Krafft-Ebing n'est pas vraiment top puisque la sexualité déviante, tout ce qui sort du cadre de la sexualité hétéronormative est considéré comme mal, déviant, mauvais, quoi. Il faut attendre les années 60 pour que le kink apparaisse en anglais dans le texte, comme dans un usage courant, et désigne un ensemble de pratiques sexuelles qui s'écartent des normes traditionnelles. Voilà. Donc, ces pratiques sexuelles qui s'écartent des normes traditionnelles sont souvent appelées le sexe vanille. Vous connaissez ça ?
Oui.
Oui.
Voilà. Donc, rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Beaucoup de termes et de pratiques qui vont avec le kink viennent du BDSM, bondage, domination, sadisme et masochisme, comme le consentement et le safe word, sur lequel on s'est mis d'accord en amont et qui permet d'arrêter une pratique quand on n'a plus envie.
Qui peut être utilisé
dans plein d'autres trucs que le sexe, tout à fait.
Donc, et dans le sexe vanille aussi.
Et dans le sexe vanille aussi. C'était pour dire que cet héritage du milieu BDSM, dans lequel la communauté LGBT a eu une place importante, eh bien, c'est pour dire que on va donc mettre ça dans le dos des réacs. C'est toujours les queers qui gagnent à la fin en imposant des pratiques et des mots qui respectent les gens et la terre.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc, c'est avec ce terme qui s'est fait une place dans le langage courant maintenant. J'imagine que beaucoup de monde l'a déjà entendu. Qui désigne une pratique, une préférence. Donc, un terme plutôt neutre finalement, plus tellement une insulte comme ça l'était au début. Et maintenant, on peut donc avoir son kink et s'en porter très bien. Mais revenons à nos fougères. J'ai donc pas rencontré de personnes dont le kink serait les plantes, mais j'ai découvert un manifeste.
Ouais, ouais. Un manifeste.
Un manifeste, ouais.
Pourtant, ça doit exister, non ?
Des gens qui aiment les plantes ?
Bah, des gens qui font des trucs dans les plantes, avec les plantes. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens dont le kink, c'est les plantes.
Ouais. Carrément.
Puisqu'il existe des kinks sur à peu près tout.
À peu près tout. Mais mon manifeste n'est pas vraiment totalement pas en lien avec des plantes. C'est pas ce qu'on pourrait dire. C'est juste que c'est plus général que personnel, finalement, ce que je vais vous raconter. Mais n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez nous parler de votre kink avec les plantes. Vous pouvez tout à fait nous écrire à Radio Royan, à l'Office de Tourisme, Place de l'Église, 26 190 Saint-Jean-Royan.
C'est ça. Ou sur notre adresse mail noctule avec un S, @mailo.com.
On adore recevoir des cartes. D'ailleurs, merci beaucoup.
Oui, merci.
Pour la carte postale.
Oui, on a reçu une carte postale des Pyrénées, de Foix. Merci à notre admiratrice secrète qui nous a fait part d'une lecture qui lui avait plu et qu'on s'est empressé de commander à la médiathèque.
Donc, dès qu'on l'aura lu, on pourra vous en lire aussi des extraits, peut-être, pour partager cette pépite. Mais revenons à nos fougères. Incroyable, ça. On s'écarte. Donc, je n'ai pas rencontré de personne qui aurait un kink pour les plantes, mais j'ai découvert un manifeste de l'écosexualité. Voilà. Écrit par Annie Sprinkle et Beth Stevens, qui sont maintenant des stars dans le milieu artistique queer. Peut-être vous les connaissez pas, mais sachez que c'est des stars. À la base, c'est deux amoureuses, une travailleuse du sexe, donc c'est Annie Sprinkle, qui est pionnière du mouvement sexe positive, et une chercheuse d'université, Beth Stevens. Elles ont développé toute une pratique artistico-politique sexuelle en faisant des films, des happenings, comme des mariages avec les montagnes, des forêts. Elles se rendent sur les lieux exploités par l'humain pour revendiquer leur vision du vivant et de la terre comme une amante et non pas comme une chose à exploiter. Je vais vous lire quelques courts extraits de leur manifeste pour que vous compreniez. Nous sommes les écosexuels, la terre est notre amante. Nous en sommes follement, passionnément et férocement amoureuses. Nous sommes chaque jour, sans exception, reconnaissantes de cette union. Dans le but de fonder une union toujours plus réciproque et plus durable, nous collaborons avec la nature, nous traitons la terre avec respect, bonté et tendresse. Nous faisons l'amour avec la terre. Nous sommes aquaphiles, terraphiles, pyrophiles et aérophiles. Nous enlaçons les arbres sans pudeur, nous massons la terre avec nos pieds, nous murmurons des mots doux aux plantes. Nous sommes des naturistes, des adoratrices du soleil et des observatrices d'étoiles. Nous caressons les pierres, jouissons des cours d'eau, admirons souvent les courbes de la terre. Nous faisons l'amour avec la terre à l'aide de nos sens, nous célébrons notre point E comme Earth. Nous sommes très coquines. Écosexuel est une identité. Pour certaines d'entre nous, être écosexuel est une identité sexuelle première, tandis que pour d'autres, non. Les écosexuels peuvent être GLBTIQ, LGBTQI, c'est la version québécoise, je crois, pardon, hétérosexuels, asexuels ou autres. Nous invitons et encourageons les écosexuels à sortir du placard. Nous sommes partout. Nous sommes polymorphes et pollen amoureux. Nous éduquons le public à la culture, à la communauté et aux pratiques de l'écosexe. Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes. Nous faisons tous partie, nous sommes inséparables de la nature. Ainsi, tout sexe est de l'écosexe. Le serment de l'écosexe est « Terre, je promets de t'aimer, de t'honorer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous rapproche, de l'une, de l'autre, pour toujours. » Vive la révolution écosexuelle. Donc elles l'ont signé, Elizabeth Stevens et Annie Sprinkle.
Ça date de quand, ce manifeste ?
2008.
Ah ouais, c'est récent.
Oh, quand même, hein ?
Oui. Non, mais
oui,
voilà.
Sur l'histoire de la vie des fougères, on est sur un truc très récent. C'est vrai,
non, mais c'est ça, je veux dire que c'est pas des... Parce qu'elles, c'est des vieilles militantes... Là, c'est plutôt des militantes des années 80, quoi. Du coup, je pensais que ça datait des années 80.
Eh ben non.
D'accord.
Voilà. Après, il peut y avoir eu des prémices ou d'autres choses avant. Moi, finalement, c'est un tout petit prisme. Hein. Comme à chaque fois, on choisit un petit truc et puis voilà. Donc,
voilà.
Ne le prenez pas mal si vous avez écrit un manifeste et que je ne l'ai pas lu, alors que vous l'aviez écrit avant, par exemple. Ce n'est pas fait exprès. Alors, les films qu'elles ont faits, ça s'appelle « Jouer avec le feu »,« L'eau nous fait mouiller » et d'autres titres plus consensuels comme « Goodbye, Golly Mountain ». Goodbye Golly Mountain se passe dans les Appalaches, des belles montagnes aux USA qui sont littéralement décapitées par l'industrie minière. Des copains de l'autre grand malade orange dont on entend trop le nom, donc je vais pas le dire. On y fait du mountain top removal, de l'extraction de charbon en rasant le sommet des montagnes à coups d'explosifs. Voilà, plus de montagne, tac.
C'est pas très écosexuel ça par contre.
Non, elles ont aussi fait des films sur leur mariage écosexuel et je vous invite à regarder leur site, dont on donnera l'adresse dans les petites lignes sous la publication sur le site de Radio Royan, bien sûr. Et comme il n'y a rien de mieux dans la vie pour comprendre quelque chose que de l'essayer, je vous propose des petits sexercises que Annie Sprinkle et Beth Stevens proposent dans des vidéos accessibles sur leur site. Ne vous inquiétez pas, c'est tout habillé. On peut faire ça assise et en solo. Si vous voulez, vous pouvez vous préparer. Il faut un peu de place autour de vous, donc vous pouvez reculer vos chaises, par exemple. Et non, on ne peut pas faire ça en conduisant. Donc toi qui écoutes la radio dans ta voiture, arrête-toi sur le bas-côté s'il te plaît. Parce qu'en plus, c'est pas très très éco-sexuel, la voiture. Vous êtes prête, ça vous dit ?
Le vélo, ça marche ?
Non plus, il faut s'arrêter. Même si c'est très éco-sexuel, je pense que c'est un peu dangereux. Parce que par exemple, sur le premier exercice, plutôt on va lever les bras. Et sur le deuxième exercice, plutôt on va bouger la taille. Voilà.
Attends, j'enlève ma veste parce que je commence à avoir chaud.
Enlève ta veste. Donc c'est parti pour deux positions écosexuelles. C'est dommage parce que les images, c'était quand même entre autres la belle poitrine d'une des deux et puis sinon l'entrejambe de l'autre. Mais habillé, hein, habillé, tout habillé bien sûr, mais bon, pour vous donner des petites idées. Donc allons-y.
On t'écoute.
Get ready to assume the ecosexual position. Let's go, honey.
That's en anglais.
Normalement, je traduis.
On va commencer avec le feu.
By becoming fire.
Séparez vos pieds.
Separate your feet a bit.
Et devenez une
let
flamme.
Yourself become a flame.
Donc là, on est bien toutes les trois autour de la table de
Zoom.
Faut lever les bras.
Your flame to the energies.
Laissez venir l'énergie jusqu'au bout de vos doigts.
And imagine
le feu qui vous lèche les pieds. Gaël, tu participes pas assez là.
Orange,
red,
rouge,
yellow, orange,
violet,
mauve,
toutes les couleurs
purple, green,
de
all
feu.
Kinds of colors of fire. And bounce and shake. Shake
et bougez.
Shake up and down.
Sentez la chaleur.
Feel the heat.
Bon, bravo. Maintenant,
okay, so now
on va orbiter autour de la Terre.
And just loosen your hips.
Séparez
up a
vos
bit,
pieds.
Loosen them up, and then just start orbiting around that center.
Faites tourner vos hanches autour du centre de gravité.
So just pretend like you are
vous êtes en orbite autour du Soleil.
Ce qui est bien, c'est que dans le studio, on a quand même vu sur toute la place avec les fenêtres.
Sentez la gravité. Ça vous connecte à la Terre.
Ouais,
nous, on aime ça, être connecté à la Terre. Devenez une planète sauvage. Partez loin de la Terre.
Ecstasy,
et puis revenez
circular,
dans le centre
exercises here. Although it might be kind of fun, but gravity keeps us.
La gravité, c'est l'amour, et ça nous garde connectés.
So you're just gonna go one way, you're gonna
vous
go
allez
one
dans
way,
un sens, puis dans l'autre, vous tournez.
You're gonna go the other way.
Et après, and then on devient vraiment fou,
wild,
on va vraiment loin.
Wild here in ecosexual land, and we're gonna do figure eight. It is really crazy doing
c'est
these figure eights,
especially if you circle
that sun and do figure eights.
Vous faites des cercles, des donuts, comme vous voulez.
You want to call it.
Des donuts, ah là là.
Black holes are out, dark matter's in.
Donc vous avez peut-être entendu, bravo, merci, qu'elle terminait cette petite exercise par cette punchline « Black holes are out and dark matter is in ». Ce qu'on pourrait traduire par « les trous noirs, c'est nul, mais l'antimatière, on en veut ». Je me dis qu'il y a la matière à réflexion, une punchline crypto-lesbienne peut-être. À vos interprétations, vous pouvez nous écrire à Radio Royan, Office de Tourisme, Place de la Mairie, Gaëlle s'en va, je ne sais pas, peut-être qu'elle a été perturbée par toutes ces échos. Et sex-size. Et vous excuserez mes approximations de traduction et de sciences d'astronomie parce que je ne suis pas professionnelle. J'espère que vous avez bien rigolé et je vais vous laisser avec Bonnie Banane et son sexy planète de circonstances. Uh-oh. 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 Sexy planet, sexy planet, sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. She's fire, she's water, she's everything you need. She go crazy. Sexy planet, sexy planet, sex, 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 sex. 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 Rivers floating, fire's burning.
Et oui, après ces exercices de détente cosmique et éco...
éco-sexuel.
Sexuel, pardon, j'ai eu un petit bug.
Un sexercise.
Et je vais vous lire une alternance de deux lectures. C'est la première partie, je lirai la deuxième partie dans la suite de l'émission pour pas trop plomber l'ambiance. Donc c'est des extraits d'un article qui s'appelle « S'inviter à la fête des vivants » qui a été écrit par Estelle Zongmengual, qui est une historienne de l'art. Dont on a déjà parlé pendant l'émission sur les fleurs. Mmh. Et elle se tourne, Estelle Zongmengual, vers l'héritage des femmes naturalistes qui ont su inventer un régime d'attention au vivant et inventer des formes de connaissances qui relient. Et je vais lire aussi des extraits d'un livre qui s'appelle « Comment connaître les fougères » d'une botaniste qui s'appelle France Théodora Parsons, qui est née en 1851 et morte en 1952. Donc, qui était naturaliste et autrice, et qui vient du coin de New York,
Et elle a milité aussi pour le droit de vote des femmes et l'enseignement public. Donc, Estelle Zongmengual. L'un des grands enjeux d'une culture du vivant est, à mon sens, de mettre en lumière et d'inventer des formes de connaissances qui relient, des manières de connaître qui conservent cette exigence des sciences naturelles, l'exploration de l'altérité, mais qui nous tisse un monde vivant plutôt qu'elle ne le repousse dans le domaine des choses mortes. Cette connaissance qui relie n'est pas seulement présente dans les aires culturelles qui ont échappé à la modernité naturaliste. Donc je rajoute la modernité naturaliste, donc l'approche occidentale, mécaniste, fermez la parenthèse. Donc des aires culturelles qui ont échappé à la modernité naturaliste sous la forme de savoir animiste par exemple. On peut aussi la trouver dans notre propre tradition, bien qu'elle ait été souvent oubliée, enfouie sous une autre version de l'histoire. Cette manière de connaître a été en réalité incroyablement mise en œuvre au XIXe siècle, en Angleterre et aux États-Unis, par une lignée de femmes écrivaines et naturalistes. Botanique, entomologie, ornithologie, théorie de l'évolution, tous les domaines de l'histoire naturelle sont pris en charge par ces femmes. Leurs ouvrages, véritables best-sellers de leur époque, aujourd'hui ignorés, prennent la forme d'introduction à une discipline, de guide de terrain ou encore de récit d'observation. Autodidactes, n'ayant pas droit de citer dans les académies, étudiant ainsi le vivant chaque jour depuis chez elles, dans le jardin ou les alentours, ces femmes ont inventé un style d'attention au vivant parfaitement singulier. Un style d'attention non moderne, où la connaissance du vivant a pour ambition explicite de faire entrer en relation avec lui. Donc, la naturaliste botaniste Parsons nous dit « Pour moi, le plus grand charme des fougères réside dans leur environnement. Aucune autre plante ne sait aussi bien choisir ses lieux de prédilection. Si vous souhaitez connaître les fougères, suivez-les dans les refuges les plus sacrés de la nature, dans des marais reculés et tortueux, surplombant le ruisseau rapide et silencieux au cœur de la forêt. Près du ruissellement d'une cascade écumante, au fond d'un ravin sombre ou peut-être sur les hauteurs des montagnes, là où l'air est plus pur, le monde plus vaste et la vie plus belle qu'on ne l'imaginait. Ces créatures sauvages et gracieuses sont chez elles. Vous n'apprendrez jamais à connaître les fougères si vous espérez les rencontrer en calèche, sur la route ou entre deux repas. Pour elles, renoncez à l'indolence. Il faut être prêt à arpenter sans relâche bois et champs, à gravir montagnes et dévaler gorges. Il faut se contenter du déjeuner que l'on peut emporter dans sa poche. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous vous jetterez enfin sur un lit de mousse fraîche et ajouterez à votre sandwich du cresson frais et dégoulinant du ruisseau voisin, vous dégusterez ce simple repas avec une gourmandise qu'on ne retrouve jamais dans les déjeuners les plus élaborés entre quatre murs. Et lorsque, plus tard, vous vous laisserez envahir par la délicieuse sensation de fatigue et de somnolence qui vous envahit, corps et esprit, écoutant à moitié inconsciemment les notes plaintives et prolongées des oiseaux des bois et les aigus des criquets, je ne l'ai pas très bien fait là, mais respirant le parfum mêlé de la menthe à vos pieds et des pins et des pruches au-dessus de vos têtes, vous vous demanderez vaguement pourquoi, les jours d'été, vous roulez sur la route poussiéreuse, pourquoi vous mangez à l'intérieur ou pourquoi vous vous livrez à ces choses conventionnelles et sans saveur qui occupent une si grande partie de nos vies. Il n'existe assurément aucun moyen de prévenir l'insomnie, de guérir la nervosité ou l'introspection morbide comme un intérêt captivant pour le plein air. Corps et esprit sont revigorés à un point que ne peut apprécier quiconque n'a pas expérimenté le pouvoir vivifiant d'un contact aussi étroit et affectueux avec la nature. Zongmengual continue. Et elle cite Franz Theodora Parsons, donc, mais dans un autre livre qui s'appelle « Comment connaître les fleurs sauvages » qui date de 1893, qui est le premier guide de terrain en Amérique du Nord sur les consacrés aux fleurs sauvages. Et donc elle écrit « Lorsque je me retrouvais parmi les fleurs dont les visages m'étaient familiers, mais leurs noms inconnus, je sentais que je tirais pas le meilleur parti de la situation. Et quand je rencontrais des plantes et que je ne connaissais ni de vue, ni de nom, j'étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. » Fermez les guillemets. Les termes employés ici par Parsons peuvent surprendre. Elle parle des visages des fleurs, elle ne dit pas « trouver les fleurs » mais les rencontrer. Doit-on y voir de l'anthropomorphisme ? Et ce serait manquer la subtilité de ce que construit ici l'auteur. Car, par le choix de ces mots, Parsons ne compare pas les fleurs à des humains. Elle fait une analogie entre deux relations. Parson en appelle en effet à une expérience connue du lecteur, pour qu'il ressente ce qui est manqué lorsqu'on ne sait pas nommer les plantes. Ne pas connaître leur nom, nous dit Parson, c'est comme se retrouver dans cette situation inconfortable qui se produit quand on arrive à une fête et où on ne connaît personne. Où l'on peine ainsi à prendre part à ce qui se passe autour de nous. Ne pas connaître le nom des plantes autour de nous, c'est s'exposer à éprouver ce même sentiment de n'être pas à sa place, de ne pas appartenir, d'avoir le sentiment d'être seul alors même qu'on est entouré. L'origine du sentiment de solitude, c'était parce que c'était notre dernière émission, c'est pour ça.
Autoref.
L'origine du sentiment de solitude cosmique des modernes n'est peut-être pas une lucidité métaphysique supérieure sur le fait que nous sommes les seuls sujets dans un monde de choses, matière muette, absurde. C'est simplement qu'on hérite d'une socialisation culturelle telle qu'on ne connaît personne, à la fête du vivant.
Alors moi je voulais dire que depuis que tu as commencé à parler de tout ça, et ben j'ai vraiment repensé à notre émission sur la solitude et sur le fait que... Enfin, même cette histoire qu'il y a des milliers d'espèces derrière des milliers de genres et tout ça, et ben en fait je me dis ben oui, mais en fait on peut, on n'est jamais seul dans la forêt par exemple. Et voilà, j'ai fait une balade ce week-end et ben j'ai pensé à ça. Voilà, je voulais dire que je me disais je suis pas tellement seul. Il y a plein de petites bêtes, il y a plein de petites fleurs, il y a plein de petits végétaux.
Merci à Luce de t'initier à ces joies.
Merci à toi surtout. On continue ?
Oui.
On continue avec une petite lecture, une deuxième petite lecture du presque Anaïs Nin et du presque Vénus Erotica. Et tout doucement, très délicatement, les fougères se mirent à parcourir son corps, comme pour trouver l'endroit où se concentraient ses sensations. Ignorant si c'était autour des seins, ou bien sous les seins, ou encore sur les hanches, ou la chute des reins. Elle guettait les réactions de sa chair, attentif, au plus léger frémissement. Ses robes, ses draps, sa chemise de nuit, l'eau de son bain, le vent, la chaleur, tout cela avait rendu sa peau sensible. Et maintenant, les caresses la comblaient. Elle ajoutait une chaleur nouvelle et avait le pouvoir de pénétrer dans les endroits les plus secrets.
Les Hyménophyllaceae, uniques représentants de l'ordre des Hyménophyllales, sont une famille de fougères, souvent épiphytes de très petite taille. Les épiphytes sont des organismes qui poussent en se servant d'autres plantes comme support. La plupart ne prélèvent rien au détriment de leurs hôtes. Le nom hyménophyllum, dérivé du grec hyménas, membrane, peau, feuille, en référence à la fine texture des feuilles de la plupart des espèces de ce genre. Les glaicéniales sont un ordre de fougères qui comprend les trois familles suivantes. Dipteridaceae, Glaiceniaceae, Matoniaceae.
Alors, vous êtes toujours dans l'éclat des noctules, dans cette émission sur l'érotisme de la fougère, du mois de juin 2025, sur Radio Royan. Et pour continuer dans cette émission, moi, j'avais envie de parler de l'odeur des pierres mouillées de Léa Rivière. Alors, l'odeur des pierres mouillées, c'est un recueil de poésie et de textes donc de Léa Rivière, qui est danseuse et poétesse, publié aux éditions du Commun. En fait, dans ce recueil, Léa Rivière, elle tisse des mondes dont on ne peut jamais vraiment dire s'ils ont toujours été là ou s'ils sont sur le point d'advenir. Elle fabrique des histoires qui mêlent tradition, science-fiction, écologie trans, relation aux ancêtres et interdépendance des villages, du dialogue poétique qui flirte avec la performance à l'épopée vitigienne. Référence à notre émission sur Monique Wittig.
Autoref.
Léa Rivière révèle une écriture précise et protéiforme, toujours au service de ce qu'elle nomme travail narratif, une manière de faciliter l'émergence de récits nécessaires à la vie, de celles qui occupent les interstices des narrations hégémoniques. Donc voilà, Léa Rivière, elle est danseuse, elle est poétesse, elle vit et travaille surtout dans le Massif Central. Et moi, j'avais envie de vous partager une lecture de son premier texte dans ce recueil qui s'appelle « Armes molles ». C'est un texte qu'elle a écrit pour une performance le 29 mai 2021 dans le Jardin de mémoire des sexualités à Marseille. Et en fait, ça parle des lesbiennes géologiques. Et donc, peut-être vous connaissez ou commencez à connaître ma petite passion pour les archives, la recherche des générations de celles qui nous ont précédées. Et notamment, la mémoire des sexualités qui sont des archives LGBT. Je trouve que c'est un travail que font des militants, des bénévoles hyper important pour pas que notre mémoire s'évanouisse. Et voilà, donc j'avais envie de parler plutôt de ça. Et au lieu de lire moi le texte, ce qui était prévu au départ, j'ai trouvé dans l'émission de Gwynne Mallundy, donc sur Fréquence Paris Pluriel, une émission de lesbienne parisienne, dans Avec la langue, une émission qui s'appelle Deuiller avec Léa Rivière. C'est elle qui lit le texte et après il y a un petit échange sur ce texte-là.
Des lesbiennes géologiques. Elles racontent une histoire. Elles se la disent à elles-mêmes, les unes aux autres, calées entre les pierres à l'ombre des arbres. La rivière un peu plus bas, on l'entend vrombir doucement. Des chênes, un frêne, des touffes de noisetiers, plutôt du granit assez clair, mousse, quartz, lichen, coussin, carafe d'eau, la lumière bouge entre les feuilles. Certaines parlent plus souvent ou plus longtemps. Certaines participent en ne disant rien, comme si elles pensaient plus fort ou s'occupaient d'imaginer des détails dans l'espace entre les choses, laissant les autres décrire les formes invisibles déposées là, confiées. C'est difficile de savoir si elles inventent l'histoire au fur et à mesure, comme si c'était un vague souvenir plus ou moins commun évoqué pour la première fois, ou si elle la déplie comme quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qu'elle connaisse déjà. Pragmatiquement, elle raconte l'histoire de la manière exacte, de toutes les manières exactes où ces deux possibilités sont vraies en même temps. Elles disent que les histoires et le monde, c'est la même chose, ou que histoire est synonyme de relation et que c'est la matière du monde. Elles disent que mourir, c'est faciliter des rencontres. Elles ont des bites, des clites, des poils sur les seins, des seins sous les poils. Elles disent que c'est différent, des histoires différentes. Des seins sans poils, des poils sans seins, des seins coupés, des seins virtuels, des seins disparus, des seins qui affleurent, qui arrivent, qui débordent, qui galèrent, qui sont espérés, qui sont invités, qui sont de passage. Des seins qui vont et viennent, des seins dont il n'est pas question. Elles disent qu'elles sont les humaines de leur chienne et les vivantes de leur morte. Elles se souviennent avoir deviné ou décidé, sans trop savoir comment, que les traditions sont une forme cruciale de spéculation et que la science-fiction est une puissance d'archive indispensable. Elles ont remplacé collectivement les deadlines par des circles of the dead. Quand c'est le moment, elles forment un cercle et elles invitent leurs mortes pour les histoires. Elles en avaient assez des fins coupantes. Avec le temps, elles se sont aussi laissées remplacer transition par acclimatation. Et les conséquences ont été dramatiques. Drame, ce qui arrive quand on écoute les pierres. Elles disent que les drames de la matière fondent leur politique. Ça les fait rire aux éclats. Certaines appellent ça un dramatérialisme. D'autres se laissent glisser dans l'eau glacée qui bouillonne entre les rochers. Lorsque l'une d'entre elles meurt, ce sont les arbres qui s'occupent de tout, et elles suivent. Le bruit du vent dans les ramures. Elles disent que le genre est relationnel et communautaire, pas individuel ni identitaire. Elles disent que le rôle est à la communauté ce que l'identité est à la suprématie, son liant, son infrastructure, ce qui la rend possible, ce dont elle a besoin pour être. Elles disent que les suprématies sont toujours des projets et qu'on abandonne efficacement un projet en arrêtant d'investir plus ou moins passivement dans son prolongement et en s'empêchant de nourrir la fiction qui prétend que son éradication laisserait un vide à remplir. Pour ça, elle s'emploie à susciter en elle des sensations de sécurité par corrégulation des systèmes nerveux, entre eux et avec les choses sans elle. Elles appellent ça « ecologies of trust ». Elles disent que le trust, choisir de faire confiance, c'est l'inverse de la guerre contre un système. C'est un compost pour ne plus avoir besoin du système qu'on croyait devoir combattre. Elles disent que combattre quelque chose, c'est faire de cette chose un centre. Qu'alors, d'abord, la combattre devient une habitude, puis que cette habitude mute en besoin. Elles disent que si combattre une chose devient un besoin, alors on finit par avoir besoin de cette chose, par en faire pratiquement une raison d'être au monde. Elles refusent de se battre contre ce dont elles veulent se débarrasser. À la place, elles fabriquent des armes molles et elles baisent avec les rochers.
Merci beaucoup. Alors, des lesbiennes géologiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'elles sont apparues, ces lesbiennes géologiques? Et d'où elles viennent? Et qui elles sont?
C'était vraiment une pratique d'hériter, d'écrire ce texte, d'hériter des guerrières de Monique Wittig.
Donc Monique Wittig est une lesbienne géologique?
Clairement. Et okay. Audre Lorde.
Est-ce que c'est des lesbiennes qui se sont comme minéralisées?
C'est une chose que j'ai envie de pas définir, en fait. L'expression se protège elle-même. C'est ça que j'aime bien. Enfin, tout le texte de Arme molle, c'est une manière de définir ce que c'est qu'une arme molle tout en l'appliquant. Ouais, être une lesbienne géologique, c'est être une personne qui baise avec les rochers, dans tous les sens du terme.
Ok.
C'est important pour comprendre tout ça de le laisser résonner, pas comme des métaphores, mais comme de la vérité qu'on est en train de co-fabriquer.
Que ne suis-je, la fougère, ou sur la fin d'un beau jour se repose ma bergère sous la garde de l'amour. Que ne suis-je, le zéphyr qui rafraîchit ses appâts, mais que sa bouche respire la fleur qui naît sous ses pas. Que ne suis-je, l'onde pure qui la reçoit en son sein? Que ne suis-je, la parure qui la couvre après le bain? Que ne suis-je, cette glace où son miroir répété offre à nos yeux
pas l'habitude d'écouter ce genre de musique dans l'éclat des noctules.
C'est quoi l'histoire de la musique?
Et en fait, cette histoire, c'est... Donc là, on a entendu un chanteur et une joueuse de théorbe. C'est une sorte de vieille guitare mandoline du Moyen-Âge. Et en fait, c'est une chanson qui... c'est un poème, à la base, c'est un poème grivois du début du 18e siècle. Il a été mis en musique à la fin du 18e siècle. Et cette air-là, il est devenu... un air qui a été repris dans plein de musiques différentes. Et du coup, ça m'a fait trop triper quand j'ai découvert cette musique, de me rendre compte que
Il a été chanté en grec. Il a été chanté pour Paore Carnaval en occitan, en castillan. Il est aussi une chanson populaire castillane. Il est devenu l'air d'un cantique religieux qui est aussi l'air de Wahhabibi qu'on va écouter tout à l'heure. Et du coup, il y a cette espèce de voyage entre les genres de musique. Complètement poreux, ça passe d'une chanson grivoise à un cantique, à un air utilisé pour faire des cantiques. Et donc, cet air, il est attribué à Pergolèse ou à un autre type, mais bon bref. Et ça change dans des registres.
De l'histoire parcellaire aujourd'hui dans les clanets.
Et on change de registre. Des fois, c'est des chansons orales. Des fois, c'est de l'écrit musical plus érudit. Des fois, ça vient vraiment de cultures rurales. Des fois, c'est des cultures urbaines qui l'ont repris. Enfin, ça a voyagé, cette ère-là. Et moi, j'aime beaucoup cette ère-là. Et voilà.
À quand un petit rap sur sur Que ne suis-je la fougère?
Ah ouais, on pourrait en faire une prod. Enfin, on.
J'avoue. Franchement, il doit y en
vous
avoir.
Vous pouvez participer et nous envoyer votre son à noctule@mailo.com.
Oui, parce qu'on prend les cartes postales, mais les prods aussi. Hein.
Pas de problème, on les passe en ligne. On air, sorry.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, Chico?
Oui, je vais continuer mes petites alternances de textes. Alors, on reprend avec personne. Sur les berges rocheuses du ruisseau, ou peut-être parmi les racines étalées de quelque arbre forestier, la fougère à vessie fragile déroule ses petites frondes tremblantes sur lesquelles les fruits apparaissent bientôt. Là où l'humidité est moindre et l'exposition plus importante, on peut trouver la Wood si rouillée, qui dément maintenant son nom par son aspect argenté. À la même saison, dans les tourbières et les fourrés, il faut rechercher la curieuse petite langue de vipère. La fougère à vessie fragile apparaît dès le 1er juin. De nombreuses fougères sont bien avancées. Sur les flancs des collines et le long des sentiers forestiers, la fougère à vessie fragile déploie sa fronde unique en forme de parapluie, désormais vert pâle et délicate, bien différente de la plante à l'aspect ombragé d'un mois plus tard. Se retirant dans les recoins formés par les barrières de pâturage, la fougère d'âme, une autre fougère donc, est dans sa première fraîcheur, sans aucun signe des déformations qu'elle développe si souvent à la fin de l'été. De grandes taches vert jaunâtre dans les prairies humides attirent l'attention sur la fougère sensible, encore une autre, qui ne semble mériter son titre qu'à cette saison. La fougère chêne de Virginie est une autre plante à observer dans les forêts humides de juin. C'est l'une des rares fougères à pousser occasionnellement en eau profonde. De magnifiques bouquets de fougères à l'autruche, semblables à des vases, s'étendent au-dessus de nos têtes dans les forêts qui bordent la rivière. La fougère bouclier, spinuleuse, et la fougère des bois à feuilles persistantes nous rencontrent à chaque détour du sentier ombragé qui longe le ruisseau. Et sur le versant rocailleux et boisé, la fougère de Noël est presque aussi abondante. Là où le ruisseau plonge d'en haut, la fougère à vessie bulbeuse drape les berges abruptes de ses longues frondes plumeuses. Donc Estelle Zomengua, elle continue. Juste, je fais une petite précision. Des fois, j'ai un peu déformé son article. J'ai coupé ses phrases parce que sinon, je trouvais ça trop compliqué à lire. Donc pardon, toutes mes excuses envers elle. Donc... Ne pas connaître le nom des plantes fait de nous des étrangers parmi les plantes, écrit Parson. Elle procède ici à une très belle inversion. Ce ne sont pas les plantes qui sont des inconnus, formule qui nous viendrait plus spontanément à l'esprit. Mais soit, vous n'êtes pas inconnu chez vous dehors, semble dire Parson. Être chez soi dehors n'est pas un donné, cela se gagne, et vous ne serez pas chez vous à moins d'apprendre à connaître ceux qui y vivent. L'ignorance du nom des fleurs exclut, non pas du cercle des érudits, mais du cercle des plantes elles-mêmes. L'absence de connaissance est ici un empêcheur des relations, et ainsi nous prive d'un pan de l'expérience. Le nom ici n'est pas cet outil qui fige, qui met à distance, qu'il faut posséder pour établir un ordre taxinomique. Un ordre taxinomique, c'est ce truc des classifications et tout ça. Souvent analysé comme volonté de domination de la nature. Le nom n'est pas le point d'arrivée de la relation, c'est le point de départ. Il est ce qui ouvre la possibilité d'une relation. Car savoir nommer, c'est savoir distinguer, opération critique pour une culture qui a impacté la myriade des formes de vie sous un seul terme générique, la nature. Comme la nature est belle, s'exclame-t-on en étranger, arrivant dans une prairie. Parmi les antidotes puissants à l'aplat moderne naturaliste, le nom est un ingrédient important. On a souvent appris à ne voir que des fleurs, là où il y a des antilides vulnéraires et de la petite pimprenelle. Or, ne voir que des fleurs, même si on apprécie leur beauté, c'est une certaine façon de ne pas les voir. C'est leur retirer leur qualité distincte, ou mieux dit, leur manière d'être vivant. Les noms seuls servent d'indices, nous révélant leurs histoires, nous donnant le sentiment d'une camaraderie partagée avec les alentours, écrit Franz Theodora Parson. Sans le nom, il n'y a qu'un décor anonyme. Sans lui, il n'y a personne. Ou plutôt, on ne peut être personne parmi ces plantes, si l'on suit l'inversion à laquelle procède la naturaliste nord-américaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir de relation. On est voué à rester anonyme dans un monde sans nom, à être un étranger dans un monde peuplé seulement d'étrangers. La connaissance des plantes comme des manières d'être vivant est un miroir inattendu, dépourvu de narcissisme. Un miroir qui ne renvoie pas l'image de nos sentiments intimes, comme le fait le romantisme et la posture romantique, mais plutôt une image de nous-mêmes comme parmi les vivants. On pourrait appeler ce phénomène l'inversion de l'identification. Identifier les plantes permet de s'identifier soi-même, non pas d'un point de vue taxonomique donc, mais comme une manière d'être vivant parmi d'autres et tissé à d'autres. Franz Theodora Parson. Au cours du même mois, nous trouvons trois fougères, ligneuses intéressantes, toutes appartenant au même groupe. La première est la fougère à long hêtre. Elle est abondante dans nombre de nos bois du Nord et sur les berges rocheuses des ruisseaux. Sa forme est nettement triangulaire, le triangle étant plus long que large. Sa texture est plutôt douce et duveteuse. Sa paire de pinnules inférieures se dresse vers l'avant et est nettement défléchie, ce qui permet d'identifier facilement la plante. Le membre le plus attrayant du groupe est, à mon avis, la fougère chêne. Je la trouve abondante dans les marais à cèdres et les bois humides des régions plus au nord. Sa fronde délicate, étalée et à trois branches, évoque celle d'une jeune fougère chêne. Cette plante est particulièrement délicate au début de l'été, car elle se tache et se déforme fréquemment plus tard dans l'année. Dans certains ravins sauvages du nord de l'État de New York, au pied des falaises calcaires ombragées, les feuilles brillantes de la langue de cerf sont alourdies par les rangées brunes et veloutées des sporanges qui en reliefent leur face inférieure. Sur les rochers voisins, la feuille marcheuse, pittoresque, quoique moins inhabituelle, se déchaîne. Peut-être que dans les crevasses de la falaise en surplomb, la petite spleenwort de rue, j'ai l'impression que je l'ai déjà lu ça, a trouvé un point d'appui pour ses minuscules frondes dont le dos est presque couvert de points de fruits confluents. Il faut visiter des localités plus méridionales pour observer chez elle la fougère à lèvres velues. C'est presque fini. Alors pour les personnes qui ont reconnu, en fait la langue de cerf, c'est celle qu'on a beaucoup de nous dans nos forêts. Je continue. Donc pour conclure, l'ignorance des manières d'être vivant, des autres qu'humains, entraîne l'impossibilité de s'individuer soi-même comme une manière d'être vivant, et ainsi de se percevoir comme appartenant au vivant. On ne peut dès lors se sentir qu'étranger de passage parmi eux. Franz Theodora Parson nous montre ici quelles allures peut prendre une culture du vivant dans laquelle la connaissance du vivant relie plutôt qu'elle ne sépare, où l'on sent chaque jour devenir un peu plus, où on se sent chaque jour devenir un peu plus quelqu'un, un autre soi-même noué aux autres vivants que soi. Et pour finir, je vous lis un dernier petit extrait de Theodora Franz Parson. En novembre, nous remarquons surtout les fougères persistantes. Les gros fruits ronds du polypode se distinguent distinctement à travers les frondes dressées au soleil. Un vert sobre, comme grandit rapidement, est la robe hivernale de la fougère des bois persistantes. La fougère de Noël, lumineuse et luisante, rappelle que les fêtes approchent à grands pas. Ces trois plantes sont particulièrement remarquables dans nos bois de fin d'automne. Leur endurance, courageuse et joyeuse, est toujours un enchantement. Plus tard dans la saison, les pinnules recourbées du polypode semblent tirer le meilleur parti du froid. Les frondes de la fougère de Noël et de la fougère des bois à feuilles persistantes, encore fraîches et vertes, gisent prostrés au sol, leurs tiges affaiblies, semblant incapables de les soutenir. Mais dans cette position, elles sont sans doute mieux protégées des tempêtes et du stress hivernal. Et voilà, c'était pour vous dire que ce livre, il est accessible en totalité sur Internet.
Ah ouais?
Ouais. Il n'est pas traduit, par contre. Faut pouvoir le traduire.
Accessible, mais en anglais?
Oui, accessible en anglais, ouais. Avec des super belles illustrations.
Trop canon. Trop intéressant. Sans transition, on va continuer avec peut-être une petite lecture d'une presque Vénus Erotica et de presque Anaïs Nin. Toute nue, allonge-toi dans ce rayon de soleil qui tombe sur ton lit, ce lit de fougère, et y dessine un carré de tiédeur. Ferme les yeux. Respire. Il chauffe doucement ta peau, ce soleil d'automne, et mes yeux sur ton corps. Je te couvre du regard, je t'enveloppe de toute mon envie de te faire du bien. J'aimerais pouvoir te toucher comme je te regarde, tu sais, tout entière, avec une infinie douceur. J'aimerais être partout sur toi, sous toi, autour de toi.
Les salvignales sont un ordre de fougères aquatiques. Il y a les Marsileaceae et les Salviniaceae. Les Citaeales sont des fougères arborescentes, généralement très grandes et très découpées. On ne connaît pas le nombre exact de ces genres de fougères arborescentes, parce qu'à chaque expédition en Nouvelle-Guinée, on en découvre toujours de nouvelles. Thyrsopteridesae, Thyrsopteris, Loxomataceae, Culcitaceae, Plagiochiriaceae, Cibotisaceae, Alphophila, Ciatea, Dixoniaceae, Metaxiaceae. Et parmi les polypodiales, c'est l'ordre qui regroupe plus de 80% des espèces des fougères. Il y a par exemple des Telipteridaceae, Woodsiaceae, Lomariopsidaceae, Davaliaceae et beaucoup plus encore.
Waouh! Je crois qu'on va s'écouter une petite chanson.
Oui, on va écouter Férouz, la grande chanteuse libanaise, avec son morceau « Habibi ».
Thank you.
Salut Anaïs.
Et salut.
Coucou.
Coucou.
Alors, on est au téléphone parce que, en fait, t'étais malade. Du coup, tu pouvais pas venir, mais tu vas quand même nous faire un petit quiz.
Ok, ouais, ça marche. Alors, je vous fais un petit quiz sur, du coup, la vie d'Anaïs Nin. Alors, je voulais savoir si vous saviez un peu des trucs sur elle. Par exemple, à quelle époque elle a vécu?
On peut faire des propositions ou tu nous fais des propositions?
Ouais. Non?
Avant les années 50.
Dans les années 30.
Ouais, elle a vécu avant les années 50, ouais.
Dans les années 30, ouais. Dis-tu quoi?
Ouais, ouais, tout à fait.
Elle est née en 1894.
Ah ouais, waouh.
Bon, presque.
J'essaie des
plus
trucs.
Plus tard, un tout petit peu plus tard.
Bah, dis-nous, parce qu'on risque de faire toutes les années. Si
1903.
Elle est née
en 1903. Et puis, elle est décédée en 1977.
Donc, elle a quand même vu mai 68.
Oui, sur la fin de sa vie, effectivement.
Elle a dû kiffer.
Alors, ben, ouais, je sais pas. De quelle origine est-elle, à votre avis?
Bulgare.
Non.
Grec?
Moi, j'aurais dit française, mais bon, franchement, ouais. Je la connaissais pas, quoi. Assez.
Eh ben, ce qui est drôle, c'est que des fois, elle va être citée comme une auteure française et parfois comme américaine. Mais en fait, elle avait un père qui était catalan et une mère franco-danoise. C'était tous les deux des artistes, chanteuses, elle et pianiste, lui. Et eux, ils ont grandi à Cuba. Mais ils sont venus à Paris et c'est là qu'elle est née. Et après, elle est partie avec sa mère et ses deux frères aux États-Unis. Et elle a passé pas mal de sa vie aux États-Unis. Donc voilà, elle est un peu melting pot, quoi. Voilà. Voilà. Après, j'avais une autre question. Quelles sont les deux particularités de son œuvre? Ben, vous devriez en trouver une facilement.
Ben, l'érotisme.
Oui, tout à fait. Et ben, c'est avant elle, il y a eu très peu de femmes qui s'étaient lancées dans ce champ de la littérature. Et en fait, elle s'y lance parce que vers 1940, elle a des gros problèmes financiers. Et du coup, elle rédige ce qui s'appelait Delta of Venus pour $1 la page. Donc, a été après traduit sous le titre Venus Erotica. Et du coup, après, elle en a écrit beaucoup.
Mais en fait, elle était déjà autrice et elle était déjà connue pour être autrice alors à ce moment-là.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait connue, je pense. En tout cas, elle a commencé à écrire. Ça, c'est l'autre particularité de son œuvre. Elle a commencé à écrire quand elle avait 11 ans, quand elle est partie aux États-Unis avec sa mère. En fait, son père les a abandonnés et elle a commencé une lettre à son père. Et c'est devenu ensuite son journal intime et qu'elle a entretenu pendant 40 ans. Et ça va être publié. Ça a été publié posthume et posthume de son mari aussi. En plusieurs versions, et ça se trouve encore, il y en a des plus ou moins expurgées, quoi. Et c'est surtout pour ça qu'elle a été connue, mais du coup assez tard. Et sinon, elle auto-éditait des trucs. Mais elle était quand même dans le milieu des lettres par ses fréquentations et tout ça. Et du coup, juste pour finir sur l'écriture érotique, elle est scandaleusement explicite pour son époque. Et elle met un accent particulier sur la bisexualité féminine, ce qui est assez, peu fréquent dans ce milieu de l'érotisme.
Oui, elle est quand même considérée comme une figure assez sulfureuse, finalement, pour l'époque.
Ouais,
c'est quand même les années carrément. 40.
Ouais, carrément. Mm-hmm. Après, est-ce que vous avez d'autres particularités de sa vie amoureuse, sexuelle, amicale, par exemple, que vous connaissez?
Bah, elle a eu des relations bisexuelles, quoi, enfin, avec des mecs,
ouais.
Des femmes.
Oui, tout à fait. Elle a même été plutôt en trouble, comme on pourrait dire. avec notamment Henry Miller et sa femme June.
Ah oui, Henry Miller, oui.
Voilà. Et on dit qu'elle n'est pas pour rien dans l'œuvre, en fait, de Henry Miller, donc. Elle et Otto Rank aussi, qui était un ami proche, un psychanalyste, un disciple de Freud. Voilà. Et du coup, en fait, elle était quand même mariée. Elle a été mariée assez jeune à un banquier. J'ai oublié son nom. Mais ça l'a pas empêchée, voilà, d'avoir d'autres relations. Et du coup, elle a eu ce trouble avec Henry Miller et sa femme June. Et d'ailleurs, il y a la correspondance qui est éditée, qu'elle a, enfin, voilà, qu'on peut trouver en bouquin. Et après, elle a eu un autre trouble aussi avec Elba Huara. C'était une danseuse peintre péruvienne et son mari, le poète Gonzalo Mor. Et c'est notamment avec lui qu'elle fait de l'auto-édition, qu'elle imprime elle-même ses premiers poèmes illustrés en 41. Voilà. Et elle a fréquenté le milieu lesbien au cabaret Le Monocle à Paris. Ça, c'est plutôt avant, c'est dans les années 30. Et après, elle fait encore un autre truc assez marrant pour l'époque, c'est que en 55, elle épouse un acteur en Californie, alors qu'elle n'a pas divorcé de son premier mari. Du coup, elle est considérée comme bigame. Et après, bah, au bout de 10 ans, l'affaire, elle est révélée. Et du coup, c'est là qu'on l'oblige à divorcer. Je ne sais pas duquel, d'ailleurs, mais bon, voilà.
Un des deux,
et
quoi.
Et puis, dans sa vie amicale, voilà, elle a côtoyé, elle a été très amie, par exemple, avec Antonin Artaud et puis d'autres auteurs. Voilà, elle était bien dans le milieu des lettres.
Avec Colette, non?
Voilà. J'ai pas ça, cette info-là, moi. Mais peut-être.
Et elle a écrit... des poèmes et aussi des histoires, des récits ou des...
Ouais, elle a écrit coup des nouvelles érotiques, pas mal.
Des nouvelles.
Et puis c'est son journal qui est assez énorme, puisque du coup c'est 40 ans de sa vie, quoi.
Ouais, c'est surtout ça qui est connu, son journal intime, moi j'ai l'impression.
Ouais, c'est son journal intime, ouais. Et d'ailleurs, dans son journal intime, il y a une chose de sa vie familiale qui est décrite et qui est un aspect pas très marrant. Du coup, en fait, c'est que son père, avant de les abandonner, il a mis en place une relation incestueuse avec elle, notamment, enfin, de ce qu'on en sait surtout, c'est surtout qu'il la prenait en photo nue dans la salle de bain avec la porte fermée à clé quand elle était enfant. Mmh, et par contre, ce qu'elle raconte après dans son... Donc il y a un épisode du journal, il me semble que c'est un épisode du journal ou alors c'est un autre livre qui s'appelle Inceste et où elle parle de ça. Et en fait, quand elle a 30 ans, je pense qu'elle c'est des moments où elle vit plutôt en France et du coup elle revoit son père et pendant des vacances avec lui, elle va avoir une relation sexuelle choisie avec lui qu'elle a décrit dans son journal. Donc c'est assez particulier, voilà. Une des choses. Et puis après, bah voilà, la dernière un peu facette, bah du coup, on a beaucoup parlé d'elle sur le fait qu'elle avait besoin de plaire et tout ça, mais ça, d'ailleurs, c'est une des premières femmes qui a fait, je pense qu'il n'y avait pas qu'elle, mais qui a fait de la chirurgie esthétique sur la fin de sa vie, là, dans les années, je pense, 50-60. Et puis, du coup, pour plaire, elle avait une autre manie qui a été décrite dans une BD, enfin il y a une BD qui parle beaucoup de ça, qui est une BD de Léonie Bischoff, qui est sortie en 2020. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé cette BD. Bon, vous ne savez pas, donc je vais vous donner la réponse.
Non, là, dis-nous. Ouais, dis-nous. Ouais.
Eh ben, c'est le mensonge. En fait, elle était réputée pour être une grande menteuse. Comme elle avait besoin de plaire, ben, par exemple, elle a des fois raconté qu'elle était plutôt pauvre quand elle était petite alors qu'en fait, quand elle vivait à New York, en fait, sa mère était certes seule, mais elle s'en sortait assez bien. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et du coup, tout ça, ça a été... Donc, il y a ses proches qui ont témoigné de ses mensonges, mais il y a du coup cette BD aussi qui s'appelle Anaïs Nin sur la mère des mensonges et qui est, voilà, scénarisée par Léonie Bischoff. Voilà, je ne l'ai pas lue, mais elle va sûrement être pas mal. Voilà. Et après, dans tout le dernier petit détail de ses phrases, en tout cas dans sa vie, c'est qu'elle s'est portée volontaire pour prendre du LSD sous la surveillance du psychiatre américain, là, et en 55, Oscar Janiger, dans le but de décrire l'expérience, et ça, c'est aussi une des parties de son journal, voilà. Voilà, voilà pour la vie d'Anaïs Nin. Et moi, j'avais lu, et c'est comme ça que je l'avais un peu découverte. C'était une espèce de biographie romancée de Elisabeth Barillet, qui s'appelle Anaïs Nin, marquée si nue. Et bah, c'est, ça se lisait bien, quoi. C'était pas, voilà, c'est surtout sa vie qui est un peu incroyable, quoi. Donc c'est un peu facile d'écrire sur elle, j'ai envie de dire.
Voilà. Ça donne envie quand même de lire son journal, moi, je trouve.
Bah ouais, ouais, carrément. Après, ouais, ça donne envie. Puis j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle écrit pas trop mal non plus. Il y avait, j'avais trouvé un extrait d'un truc qui s'appelle Les Chambres du Cœur, que j'avais trouvé. Enfin voilà, c'était assez bien tourné. Je pense que ça peut être intéressant, ouais. Voilà.
Eh ben, merci Anaïs.
Merci Anaïs,
ben, merci
d'avoir parlé d'Anaïs.
D'avoir parlé d'Anaïs, ouais. En fait, tu l'as choisi parce qu'elle s'appelle comme toi.
En fait, oui, pourquoi j'ai parlé d'Anaïs Nin aussi, c'est parce que, en fait, moi, j'ai eu plein de vieux boomers qui m'ont fait des sales blagues, genre Anaïs, et du coup, c'était pas du tout quelqu'un qui m'intéressait à cause de ça, et finalement, eh ben, j'ai trouvé ce livre, et après, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, voilà, et voilà, du coup, je voulais en parler d'une autre manière.
En fait, on te faisait des sous-entendus graveleux parce que elle est connue pour sa vie sulfureuse, quoi, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Ah bah super.
Exactement.
Non, on préfère choisir quand est-ce qu'on a envie de parler de trucs graveleux, non?
Ouais.
Voilà.
On voulait ouvrir, enfin continuer à discuter entre nous. Tu restes un peu avec nous, Anaïs, ou t'es trop KO et tu vas te coucher?
Un petit peu. Ouais, un petit peu.
Parce qu'il y avait quand même des petites choses qu'on avait envie de rajouter avant de s'écouter une dernière musique.
Ouais.
Moi, je voulais vous dire que ce matin, en venant en voiture, j'ai entendu à la radio un court reportage sur la fabrication des poupées gonflables, donc poupées sextoy en Chine, à laquelle okay. Il va être rajouté dans peu de temps l'intelligence artificielle pour que ces poupées puissent répondre dans toutes les langues, qu'elles puissent comprendre les émotions de la personne qui la manipule, ainsi que la force du toucher, pour pouvoir réagir à cette force du toucher. Enfin, en fait, j'avais envie de pleurer, parce que de me dire que les gens sont capables de dépenser tellement d'argent, de temps, de recherche, parce qu'il y avait quand même aussi une partie recherche universitaire, pour qu'une poupée en plastique réponde, en fait, toutes les exigences de ces humains, bon, plutôt des hommes de 50 ans blancs quand même, il faut dire, c'était ce qui était dit dans le reportage. En tout cas, que ces poupées ressemblent le plus possible à des humaines, quoi. Alors qu'on est vraiment complètement incapable de se lier à ce qui nous entoure. Et voilà. Donc du coup, ça m'a fait un petit tilt de... Ah oui, c'est bien de parler de l'érotisme des fougères, parce que parfois on est tellement désespéré d'être seul et de pas être en lien qu'on préfère réfléchir à l'intelligence artificielle pour avoir l'impression de partager de la sensualité avec des humains, alors que voilà.
Et de résoudre des problèmes par le bout de la chaîne, je trouve c'est un peu fou, quoi. C'est toujours cette espèce de course en avant de plutôt que de aller voir et imaginer d'autres chemins. On prend les problèmes par le bout de la chaîne, comme ce truc de gommer les symptômes ou quoi, non?
Ouais.
N'importe quoi.
Oui, mais ça fait aussi le lien avec ce qu'on racontait sur la solitude, quoi, dans notre dernière émission, quoi. En vrai, on s'éloigne, quoi. On s'éloigne de ce que nous, on aimerait, en tout cas.
Ouais, c'est enfin, ça. C'est le monde industriel qui exploite, qui capitalise. Ouais.
Depuis, d'ailleurs, l'émission sur...
qui sait pas réfléchir.
Sur la solitude, il y en a qui m'ont parlé de l'intelligence artificielle plutôt comme aide aussi psy. Il y a des gens qui vont pas voir des thérapeutes, mais par contre... discutent avec ChatGPT en l'occurrence et ont l'impression d'être écoutés et tout ça. Enfin voilà. Alors je me suis dit bon, je vais faire la boumeuse, je vais dire que c'est scandaleux et tout ça. Et en même temps, je me dis bon, pour des gens qui sont vraiment dans des trucs de phobie sociale et qui sortent plus de chez eux, peut-être ça peut résoudre. Enfin voilà, j'essaie de voir des situations où ça pourrait être pas trop délirant de faire ça, mais je me suis dit ah ouais, donc les gens préfèrent être avec quelqu'un qui leur répond sur un chat de ChatGPT plutôt que d'aller voir un vrai humain.
Moi, je suis pas trop d'accord avec ces généralités-là.
Non, mais justement, j'essaie de pas faire des généralités, de me dire ah ouais, mais dans quelle situation ça pourrait être, enfin, tu vois, intéressant ou explicable, quoi. Mais avant que ça me choque. Et sinon, rien à voir. Moi, j'ai une petite recette de fougère. Est-ce que vous connaissez les têtes de violon?
Non.
Ah ouais, moi, c'est trop bien que tu donnes une recette. J'en ai une aussi après.
Toi, tu connais, j'imagine, Chico, les têtes de violon?
Non.
Ou aussi appelées crosses de fougère.
Ah, les crosses de fougère.
Elles proviennent d'une variété de plantes qu'on appelle fougère à l'autruche. Et il s'agit des feuilles de la plante qui, lorsqu'elles sont cueillies au début de leur développement, sont encore enroulées sur elles-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez cette image de la fougère enroulée sur elle-même. Il y en a sous les yeux d'ailleurs. Et avec le temps, les feuilles se déroulent et cessent d'être comestibles. Et on croit que les humains consomment des crosses de fougère depuis la nuit des temps. C'est donc une plante ancestrale.
C'est quelle fougère du coup? Ah oui, tu l'as dit.
Fougère à l'autruche.
Fougère à l'autruche.
Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Elle l'a décrit. Comment elle s'appelle déjà?
Théodora.
Oui, Théodora.
Et elle est présente. Elle est présente par ici.
Et ben moi, en tout cas, je sais que la seule fois où moi j'en ai mangé, c'était au Canada, dans l'Ouest canadien, et j'avais jamais fait ça. Je suis pas sûre qu'on en trouve en France, mais peut-être que si, puisque en même temps il y a des recettes en ligne. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est
qu'il y en a d'autres crosses de foulard qui se mangent.
Quand même par ici, ouais. Mais ici, par exemple, dans le Vercors, j'ai pas l'impression. Non. Alors justement, pour manger les crosses de fougère, faut placer les têtes dans un sac et les secouer vigoureusement parce qu'il y a des petites écailles brunes et les écailles vont se détacher une fois qu'on secoue le sac. Et s'il y a pas, et donc voilà, après, faut couper les parties brunies ou noircies de la tige. Et en fait, ce qui est important dans toutes les recettes que j'ai parcourues là, c'est que faut laver les têtes de violon avec soin parce qu'elles peuvent être toxiques lorsqu'elles sont crues. Donc faut bien les laver en les trempant au moins une dizaine de minutes. Et puis aussi ça réduit l'amertume. Et après on peut les cuire dans beaucoup d'eau. Donc voilà, on les rince, on les fait tremper, on les rince plusieurs fois et après on les fait blanchir dans de l'eau. Donc pour les faire blanchir, c'est faire chauffer un grand volume d'eau jusqu'à ébullition. Après il faut les plonger dedans une dizaine de minutes. Et après on les plonge dans l'eau froide pour stopper la cuisson et on conserve la belle couleur verte. Voilà, c'est assez simple. Et après, on peut les assaisonner avec, par exemple, de l'ail et de l'échalote et du persil plat. Et après, on les fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive à feu moyen pendant 2 minutes et elles deviennent légèrement translucides. Et voilà, on ajoute l'ail, le persil sur les têtes de violon. On fait revenir le tout 2-3 minutes et un peu de fleur de sel. Et voilà. En fait, c'est ultra simple. Et moi, ça m'a donné envie d'essayer d'en trouver. Bonne question, Anaïs. Je sais pas s'il y en a dans le Vercors, mais peut-être on peut essayer.
Mec.
Si, il y en a qui se mangent dans le Vercors.
T'en as déjà mangé? T'en as déjà trouvé?
Oui.
Ouais. Ben voilà.
Moi, en me baladant, j'ai vu au moins 3 ou 4 espèces différentes, juste là, entre Saint-Laurent et Saint-Jean, autour du Cholet. Et moi, je voulais vous parler de le polypode vulgaré. C'est la fougère réglisse. Vous pouvez regarder sur internet à quoi elle ressemble avant d'aller essayer de sucer ses racines qui ont un goût de réglisse. Du coup, c'est vraiment le rhizome qui est accroché. Souvent, ça va être dans un vieux mur ou des choses comme ça. Et on va le nettoyer et en fait, après, on peut le sucer. C'est un goût de réglisse. Ça s'appelle aussi des fois la réglisse du pauvre. Voilà.
Ouais, c'est très érotique de la fougère quand même, de sucer la racine.
Ouais, de sucer sa racine.
Oui, et apparemment, c'était aussi utilisé dans le pain. Dans les périodes de famine.
C'était. Parce que c'est très sucrant, c'est ça, non?
Je sais pas pourquoi c'était. Et en fait, ça me.
Ouais, j'avais lu aussi que ça avait un pouvoir sucrant hyper fort.
Oui. Voilà. On dit que le rhizome de la fougère aigle, c'était employé comme aphrodisiaque.
Ok.
Et que la cendre de la fougère aigle. Elle est riche en potasse et donc elle était utilisée pour la fabrication du savon et du verre.
Ok.
Elle était utilisée pas mal, même en anti-limace, figurez-vous, en cette période de limace invasive. Les fougères, elles repoussent les limaces. Puisque. Il y a tout un truc.
La cendre ou juste les fougères?
J'avais l'impression que c'était les fougères. Les fougères, même okay. Pas la cendre.
Qu'on pourrait les mettre au pied des plants ou genre dans le jardin pour repousser des limaces. Ah ouais.
Bon, je laisse aux personnes le soin de faire leur propre enquête, mais ça avait l'air d'être une pièce intéressante.
Ok.
Et aussi, je voulais vous dire que dans le Vercors, il y a deux fougères rares. Il y en a une qui s'appelle la Doradie élégante, et son nom scientifique, c'est l'Asplenium lepidum. Et au début du siècle, et pendant des dizaines d'années, nous dit le site Le Vercors Net, dans son dossier Science Fougère, que à Sainte-Eulalie, ça a été pendant longtemps la seule région, la seule endroit quoi de connu où en France où il y avait cette petite fougère là qui habitait, qui est une petite fougère toute délicate et discrète. Et sa touffe de feuilles, elle dépasse pas 10 cm. Voilà.
Et la deuxième fougère incroyable que nous avons par chez nous ?
Oui. Et attends, juste, ah oui, comme beaucoup de fougères, elle vit jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Et l'autre ? Eh ben, c'est une Blechnum spicante, ou Blechnum en épi. Et c'est la seule espèce européenne d'un vaste groupe de fougères, essentiellement tropicales. Et donc, elle a deux types de feuilles. Elle est caractéristique parce qu'elle a deux types de feuilles. Et elle a été découverte pour la première fois vers Saint-Julien-en-Vercors. Et a priori, il y a deux autres stations qui existent seulement. On dit station quand il y a c'est des zones, enfin c'est un terme naturaliste, ce terme-là, station.
Rien à voir avec la station de ski ou la station balnéaire.
Ouais. Et il y a une petite photo sur ce site, il y a une petite photo du Blechnum spicant, qui est très mignonne.
On vous mettra bien sûr les liens pour toutes ces choses au bas de notre publication sur Radio Royan. Il est temps de se quitter, je pense.
Oui.
Et on va peut-être vous dire à très bientôt.
Mais on voulait se quitter avec quelque chose, Chico, non ?
Ah oui. Alors c'est un truc bizarre, un boîtier qui amène des discussions. Il y a des gens qui disent que c'est vraiment une grosse embrouille. Il y a des personnes qui ont poussé le truc et qui ont développé plein de... Enfin, notamment un botaniste qui est un peu connu pour ça, qui a développé tout un plein d'outils grâce à ce que lui raconte les plantes. Enfin, et je suis arrivée par là parce qu'elles sont souvent les personnes qui utilisent ce boîtier. Ils disent que les fougères sont des grandes musiciennes, et donc c'est un boîtier qui vient calculer la circulation électrique entre une des feuilles d'une plante et le sol. Et donc, il y a une circulation électrique dans la plante, et ce boîtier, il transforme la circulation électrique en une donnée sous le format MIDI. Et ensuite, il y a des gens qui ont poussé aussi le truc en changeant les propositions de base du boîtier, même en mettant des mots à la place. Et donc, ils avaient l'impression que les plantes choisissaient les mots. Et que les plantes aussi choisissaient la musique qu'elles faisaient. Donc voilà, j'ai pas trop poussé les trucs, mais on trouvait ça marrant quand même de vous mettre ces petites propositions de musique. Donc vous allez entendre plusieurs fougères différentes.
Donc c'est de la musique de fougères.
C'est de la musique de fougères. On dirait que ce serait la musique des fougères.
Et... Merci.
À très vite, alors.
Et puis, donc, on se quitte là-dessus. Et puis, donc, au mois prochain dans l'éclat des noctules.
Ciao, ciao.
Bon mois de juin.